Alors, le plan que nous allons suivre pour cette intervention sera tout simple, puisqu'il s'agit tout simplement de dérouler l'intitulé qui, comme Lydia vient de le rappeler, c'est l'élevage moderne et ses conséquences environnementales, sanitaires et éthiques. Alors, si vous cherchez une définition de l'expression « élevage moderne », vous trouverez probablement qu'il s'agit du mode de production industriel appliqué aux animaux. Et quelques critères permettent de le caractériser, cet élevage. Tout d'abord, on peut dire une sélection génétique des races les plus productives et les plus adaptées à la conduite automatisée de l'élevage. C'est ainsi, par exemple, qu'un des critères de sélection génétique des bovins de race laitière, c'est la conformation de la mamelle. Il faut que la mamelle des femelles laitières ait une forme adaptée aux machines à traire, et maintenant au robot trieur qui assure la pose et la dépose automatique des gobelets. Un deuxième critère pour qualifier, cerner ce qu'est cet élevage moderne, c'est la concentration maximale des animaux, le plus souvent en bâtiment, voire en bassin, quand on a affaire à de la pisciculture. Encore un autre critère, la conduite d'élevage par bande d'individus homogènes, avec une vitesse de rotation élevée. On peut retenir un quatrième critère, c'est la dissociation entre l'effectif entretenu et la capacité de l'exploitation à produire l'aliment des animaux. Alors cette dissociation se trouve toutefois modérée en raison d'une obligation réglementaire qui pèse sur les élevages importants, puisqu'ils doivent maintenant disposer d'une surface agricole suffisante pour permettre un épandage raisonné des déjections animales, les déjections étant les lisiers et les fumiers. Au stade où nous en sommes aujourd'hui, ce type d'élevage n'est plus tant l'application du mode de production industriel à l'animal que la modification de l'animal dans sa génétique, dans son anatomie, dans sa physiologie, dans ses conditions de vie pour l'intégrer à l'industrialisation globale de notre société. L'animal n'est devenu que matière modelable autant que faire se peut. Les espèces animales concernées sont essentiellement les espèces domestiques qui sont élevées en vue de la production des denrées alimentaires, la viande, le lait, les œufs. De façon plus modeste, il y a un élevage moderne des animaux qui sont destinés à l'expérimentation scientifique, comme les rongeurs ou les carnivores domestiques, ou encore des animaux exploités pour leur fourrure, comme les visons, ou encore des animaux qui sont destinés à être ensuite vendus comme animaux de compagnie. Nous allons limiter notre propos à l'élevage qui est réalisé en vue de la production des denrées alimentaires. Et je vais vous donner quelques chiffres pour vous permettre d'évaluer l'importance de la question. Les chiffres que je vous donne sont issus des statistiques du ministère de l'Agriculture. Plus de 90% de la production porcine est issue de l'élevage intensif, pour une livraison à l'abattoir de 25 millions de porcs en 2010, avec un cheptel moyen qui était supérieur à 3000 porcs pour une exploitation qui assurait la naissance et l'engraissement des cochons. 60% de cette production est localisée en Bretagne. Côté volaille, en 2014, l'élevage intensif a concerné 80% des 750 millions de poulets qui ont été livrés à l'abattoir, et 70% des 40 millions des poules pondeuses. Elles aussi finiront à l'abattoir si elles ne meurent pas avant. En 2012, c'était 3,6 millions de vaches laitières. Alors, ce qu'on appelle une vache laitière, c'est une femelle bovine, en lactation évidemment, et qui est entre l'âge de 2 et 5 ans. Première mise bas à 2 ans et durée de vie programmée à 5 ans. Donc, une vache qui va à l'abattoir en général a eu trois veaux si tout s'est bien passé. Donc 3,6 millions de vaches laitières qui ont produit 23,8 milliards de litres de lait, ce qui accorde à l'industrie laitière la première place au sein des industries agroalimentaires en France, avec un chiffre d'affaires de 27,2 milliards d'euros. Le lait bio ne représente que 2% de la collecte. Ce mode de production, appliqué à l'ensemble du monde agricole, a été initié au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et ce mode de production a permis un chamboulement, un basculement économique et social impressionnant. Celui d'une France qui était rurale, En 1945, elle était forte de 46% de la population totale, et puis elle occupait 36% de la population active. Eh bien, elle a basculé en une France industrielle, celle d'aujourd'hui, où 80% de notre population est urbaine et où il n'y a plus que 600 000 exploitants ou co-exploitants agricoles, en métropole du moins, ce qui représente à peine 3% de la population active. Cette évolution a permis d'assurer la sécurité alimentaire du pays et en plus de placer la France comme première puissance agricole en Europe. Toutefois, nous avons affaire à un élevage qui a connu bien des crises économiques. Elles ont poussé à la faillite un nombre considérable d'éleveurs. Et peut-être avez-vous entendu, alors c'est vrai que les médias ne parlent quasiment pas d'agriculture, mais peut-être avez-vous entendu que depuis les années 2000, on a eu une baisse du cours du porc qui a été considérable. Le prix du porc a chuté, ce qui fait que les deux tiers des exploitants porcins de notre pays, eh bien, ils ont disparu entre les années 2000 et 2010. Les restants, évidemment, ont augmenté de taille. Mais il y a eu aussi, alors ça, évidemment, en général, le grand public n'est pas au courant des misères des agriculteurs, mais en tous les cas, il y a eu des crises qui, elles, ont touché le grand public, des crises sanitaires, mais aussi des crises morales, suite à des publications, des reportages qui dévoilaient la réalité de la condition animale en élevage intensif. Et puis, il y a eu aussi des différents scandales dus à des fraudes massives, tel le scandale qui a eu lieu au début de l'année 2013, lorsqu'il y a eu cette affaire de substitution de la viande de bœuf par de la viande de cheval dans des plats cuisinés à l'avance. C'est la raison pour laquelle il y a une méfiance de plus en plus vive des consommateurs, et ça a conduit à l'émergence d'une production porteuse de labels de qualité. Toutefois, cette dernière reste très marginale. C'est pourquoi, en 2015, l'élevage moderne reste toujours synonyme d'élevage industriel ou encore, on appelle ça, ou encore d'élevage intensif. Alors nous allons voir maintenant, à l'aide de quelques exemples, ce ne sera certainement pas exhaustif, mais à l'aide de quelques exemples, nous allons essayer de cerner les conséquences environnementales, dans un premier temps, puis sanitaires, de ce type d'élevage. Dans le domaine de l'impact sur l'environnement, les aspects positifs de l'élevage intensif sont peu nombreux. Il faut bien le reconnaître. Alors il y a bien une recherche d'intégration au paysage des bâtiments construits, notamment par la plantation de haies. C'est d'ailleurs imposé par le Code de l'environnement pour les exploitations de forte taille. On peut quand même aussi parler de la diminution de la nuisance sonore, puisque les animaux sont enfermés, mais en dehors de cela, le bilan est plutôt sombre. D'une part, nous avons affaire à des élevages qui participent évidemment à la pollution industrielle générale. Il suffit de penser aux matériaux nécessaires à la construction des bâtiments. Les bâtiments d'élevage sont souvent des hangars à ossature en acier galvanisé. Et puis, il y a beaucoup d'équipements dans ces bâtiments qui sont des équipements en aluminium, en acier inoxydable, pensez aux cages et pensez à tout le matériel nécessaire aux salles de traite. Il y a aussi un grand usage de plastique. C'est l'agriculture, qui doit être un des premiers consommateurs des films plastiques, et en particulier aussi l'élevage, puisque ces films sont nécessaires pour les stockages en big ball des fourrages ou tous les plastiques utilisés pour la fabrication des ensilages nécessaires à l'alimentation animale. Alors donc, on peut dire que l'élevage industriel participe à cette pollution générale provoquée par l'industrialisation. En particulier, on peut penser au rejet dans l'environnement des métaux lourds, dont certains sont des cancérigènes de catégorie 1, c'est-à-dire on est absolument sûr et certain qu'à leur contact, les êtres vivants qui sont en contact avec ces produits vont développer un cancer. On peut penser au chrome hexavalent, qui rentrent dans la fabrication de l'acier inoxydable. Et puis, ils participent aussi, évidemment, à l'élimination dans la nature d'un certain nombre de substances chimiques qui sont des perturbateurs endocriniens. Alors ça fait donc partie de l'impact sur l'environnement, comme toute industrie. Par ailleurs, il faut noter que ces élevages sont totalement dépendants de la ressource énergétique. Il faut ventiler les bâtiments. Il faut les éclairer, en particulier quand on a affaire à des élevages de poules pondeuses. Les températures doivent être maîtrisées. Par exemple, si vous voulez démarrer une bande de poulets de chair, ça se fait avec des poussins de un jour, c'est-à-dire des oiseaux nus. Il faut donc chauffer à 42 degrés Celsius. Il faut faire fonctionner les tapis roulants, par exemple dans un élevage de poules pondeuses, pour retirer automatiquement les œufs. Et puis aussi, il y a d'autres tapis roulants pour retirer les fientes. Les éleveurs sont, de façon très générale, équipés de groupes électrogènes, en cas de besoin, d'un groupe électrogène de secours. Mais tout événement climatique anormal va se solder par la mort des animaux. C'est ainsi que, lors de la canicule d'août 2003, il y a eu la mort de 1,7 million de volailles, juste dans notre Grand Ouest. En août 2012, nous avons aussi eu un petit épisode de canicule, et là, ce fut la mort de plusieurs dizaines de milliers d'oiseaux dans le centre de la France. Restent des pollutions qui sont beaucoup plus caractéristiques de ce mode de production. Certaines sont bien connues du grand public. Je veux parler des rejets gazeux, ou des lisiers, ou des cadavres. Pour les rejets gazeux, d'après un rapport de la FAO de 2003, l'élevage, alors c'est la FAO, donc les chiffres ont été établis en moyenne sur l'ensemble de la planète, l'élevage contribuerait pour 14,5% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, ce qui placerait ces rejets dus à l'élevage avant l'émission de tous les moyens de transport de la planète. Cet élevage est aussi responsable de 80% des émissions à l'atmosphère d'ammoniac, tout simplement par volatilisation à partir des déjections animales. Alors, l'ammoniac, c'est un gaz qui est toxique pour les voies respiratoires, mais il est aussi parmi les principaux responsables de l'acidification de l'eau et des sols. Et là, je vous renvoie au phénomène des pluies acides. Côté déjection animale, on vient d'en parler par le biais donc de cet dégagement gazeux à l'atmosphère, les déjections animales elles-mêmes sont éliminées par épandage. Et ça génère des pollutions olfactives qui sont totalement insupportables. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de traverser des régions où on vient d'épandre, même il y a plusieurs jours auparavant, ou pire, vivre à côté de terrains d'épandage, c'est intenable. Mais pire, ces épandages sont à l'origine d'un déséquilibre azoté des sols. Par ruissellement, les nitrates, qui ne sont pas dégradés dans les sols, vont rejoindre les eaux superficielles, les nappes phréatiques, donc les eaux souterraines, et les zones maritimes côtières, avec pour conséquence les pertes en ressources d'eau potable et les phénomènes d'eutrophisation. Très régulièrement, ça, les grands médias en parlent. La France a été de nouveau condamnée en septembre 2014 par la Cour de justice de l'Union européenne pour son incapacité à améliorer la qualité de ses eaux, et en particulier, elle n'est jamais, mais jamais parvenue à respecter la directive de 1991 sur les nitrates et les pollutions agricoles. Et avant 1991, il y a eu une ou d'autres directives pour la protection de l'eau potable que notre pays s'est montré tout aussi incapable de respecter. Ce sont des centaines et des centaines de points d'adduction d'eau potable qui disparaissent chaque année. Troisième exemple pour montrer l'impact environnemental de ces élevages, c'est le problème des cadavres. Les cadavres sont éliminés par équarrissage, et j'ai retrouvé des chiffres intéressants, ils sont un petit peu vieux, ça date de 1996, dans un rapport qui avait été déposé à l'Assemblée nationale. Et il y avait ces chiffres intéressants, me semble-t-il, dans les années 1950, l'activité de collecte et de destruction des différents ateliers d'écarissage français concernait environ 60 000 tonnes par an. Alors là-dedans, on a tout. Dans ces 60 000 tonnes, on a les cadavres animaux, les cadavres animaux issus de l'élevage, mais aussi les cadavres des animaux de compagnie. Et puis on a aussi les déchets d'abattoir. Donc 60 000 tonnes par an. En 96, donc 1996, les chiffres sont les suivants. Juste pour les cadavres, 260 000 tonnes. Et pour ce qui concerne ce que l'on appelle les sous-produits animaux, c'est-à-dire tous les déchets d'abattoir et tous les déchets de la filière viande, nous en sommes à 3 350 000 tonnes, juste pour l'année. Donc vous voyez l'ampleur de ce que nous devons maintenant gérer en termes de déchets animaux, des tissus biologiques. La mortalité avant la fin de vie programmée dans les élevages industriels reste importante. Bon, elle a maintenant, il y a quand même eu des progrès de fait, donc elle a chuté, ça dépend des élevages, mais elle a chuté à moins de 10%, nettement moins de 10% dans les élevages de porcs et de volailles. Mais le triste record est détenu par l'élevage cunicole, c'est-à-dire l'élevage des lapins, en élevage industriel, hein, j'entends bien, puisque là, on a encore une perte de 25% des effectifs, avant que les animaux atteignent l'âge de partir à l'abattoir. Bon, l'industrialisation du lapin a toujours posé énormément de problèmes, et cette production est d'ailleurs très très dépendante du recours aux antibiotiques, ce qui me permet de juste évoquer cette conséquence environnementale de l'élevage intensif, c'est le fait qu'on va retrouver des résidus médicamenteux dans les déjections. On va retrouver aussi dans les effluents de ces élevages beaucoup de produits de désinfection et de nettoyage. Tout ceci part donc évidemment sur les stations d'épuration dans le meilleur des cas, on espère. Et puis, bien sûr, on va retrouver ces substances dans les boues de ces stations d'épuration qui, elles-mêmes, vont être éliminées par épandage. Alors, je vous donne tous ces détails pour vous essayer de vous faire comprendre que tout est lié. Un autre impact sur l'environnement qui est bien moins connu du grand public est celui qui est lié à la production de l'alimentation destinée aux animaux en élevage intensif. Et là, je vous propose l'exemple d'un élevage industriel de porc de taille et de performance tout à fait moyenne pour un élevage industriel. J'ai retrouvé ces chiffres pour 250 truies qui produisent actuellement 3400 porcs charcutiers par an. Donc, c'est un élevage industriel, mais qui n'est pas particulièrement performant. Là, il faut au total 282 kg d'aliments, dont 240 kg de céréales, pour mener un porcelet. Donc là, il s'agit d'une race classiquement utilisée en élevage intensif, de large white, 1 kg à la naissance, et on doit le mener en 6 mois à 115 kg de poids vif, soit 92 kg de carcasse à l'âge de 6 mois. Alors c'est assez paradoxal déjà de voir que l'on va donner 240 kg de céréales de bonne qualité pour avoir à la fin 92 kg de carcasse. Donc de carcasse, ça veut dire qu'on a encore tout le squelette et toute la masse graisseuse. Hein. Là-dessus, il y a à peine 50-55% de viande maigre en récupération. Donc il y a déjà un certain paradoxe dans l'usage des céréales. Mais outre ces céréales, il est nécessaire d'apporter 40 kg de compléments alimentaires qui sont riches en protéines. Et ces compléments sont essentiellement des farines de poisson qui sont issues de la pêche minotière. Alors peut-être que c'est un terme qui est un peu nouveau pour vous, ce terme de pêche minotière. C'est une dénomination qui qualifie une activité de pêche en mer dont les captures sont transformées en farine. Et cette farine, eh bien, elle sert essentiellement comme aliment sec pour l'élevage de porc, mais aussi de volailles. Je vous ai pris un exemple dans l'élevage de porc, mais on pourrait faire les mêmes raisonnements chez les volailles, les poulets de chair. Donc, ce type de pêche joue un rôle majeur dans la surexploitation des ressources marines, et en particulier celle qui se fait dans les grands fonds. Parce qu'on pêche, on capture des produits qui ne sont pas présentables pour la consommation humaine, et donc c'est transformé en farine, tout simplement, et ça part sur l'alimentation humaine. Sachant que c'est toute cette vie dans les grands fonds sert évidemment à alimenter, dans la pyramide alimentaire, sert à alimenter toutes les autres espèces qui vivent dans la mer. Il y a donc ainsi un lien direct entre l'élevage intensif, donc à première vue on ne ferait pas le lien, entre l'élevage intensif et la destruction des ressources marines. Voilà donc quelques petites photos pour essayer de vous faire appréhender cet impact environnemental. Et je vais maintenant vous donner quelques petits éléments pour essayer de vous faire sentir l'impact dans le domaine de la santé. La santé, c'est la santé animale, mais c'est aussi la santé humaine. Et d'ailleurs, les deux sont étroitement liés. Sur le plan de la santé animale, La conduite rationalisée de l'élevage moderne a permis une amélioration incontestable de l'hygiène, ainsi que le recul de maladies, de pathologies historiques. Alors il a été utilisé, alors d'abord il y a l'hygiène globale de la conduite d'élevage, et puis il a été aussi utilisé des vaccinations et des traitements antiparasitaires systématiques. Avec la conduite de l'élevage en bande, entre chaque bande, on met en place des temps de nettoyage, désinfection, vide sanitaire. Donc c'est vraiment très important sur le plan de cette hygiène. Et puis aussi, ce qui joue aussi dans ce sens-là, c'est la durée de vie très courte des animaux. Certaines maladies majeures communes à l'homme et à l'animal, comme la tuberculose ou la brucellose, ont quasiment entièrement disparu, sont devenues bien rares. Toutefois, de nouvelles pathologies ont émergé. On peut citer le cas, pour y donner un exemple de maladie infectieuse, l'exemple de la maladie à prion, qui s'appelle l'encéphalite spongiforme bovine, l'ESB, dite la maladie de la vache folle, qui est responsable d'un nouveau variant de la maladie humaine de Creutzfeldt-Jakob. Cette pathologie est apparue au cours des années 80, suite à l'introduction dans l'alimentation des vaches laitières hautes productrices de farine de viande et d'os, qui était issu de l'écarissage. Donc tout le monde a en tête encore ce fameux scandale, qui a été un des premiers scandales alimentaires qui a secoué la France, l'Europe, et même sur le plan international. Alors je ne vais pas me pesantir sur ce scandale. J'ai trouvé ce chiffre intéressant, c'est que c'est un chiffre que l'on retrouve sur le site Finance Europe, c'est qu'entre 1996 et 2001, la crise de l'ESB a coûté au budget de l'Union européenne une somme de l'ordre de 6 milliards d'euros. Un autre exemple peut être apporté avec le portage sain chez les volailles de bactéries qui sont pathogènes à l'homme. Alors l'homme se contamine via sa consommation alimentaire, en particulier de viande et d'œufs. Ces bactéries sont pour les plus fréquentes, celles qui sont classiquement retrouvées, ce sont des salmonelles et des campylobactères. Et le portage sain, en fait c'est un portage sain chez les volailles, mais qui sont à l'origine d'intoxication alimentaire chez l'être humain. Donc ce portage sain est vraiment favorisé par la forte densité animale que l'on trouve évidemment dans les bâtiments d'élevage. Une étude qui a été menée par l'Institut technique des volailles d'Itavie a trouvé un taux de contamination par campylobactères de 54%, pour les 174 élevages de poulets de chair qui y ont été visités et analysés. Enfin, pour varier nos plaisirs et essayer de trouver un exemple sanitaire dans l'espèce porcine, j'ai pensé que ce serait bien de vous parler d'une pathologie extrêmement fréquente que l'on a dans les élevages industriels, que l'on n'a pas sinon, mais dans les élevages industriels, c'est le problème des arthrites infectieuses, qui sont d'une part extrêmement douloureuses pour l'animal. Je ne sais pas si certains souffrent des articulations, mais on sait que c'est très douloureux. Donc très douloureux pour l'animal et aussi à l'origine de lourdes pertes économiques à l'abattoir du fait de saisies. Donc ce sont des arthrites, donc des réactions inflammatoires au niveau des articulations, en général les plus grosses du squelette. Et elles sont infectieuses et donc elles sont à l'origine de saisies partielles, c'est-à-dire de retrait de la consommation humaine, soit partiellement, soit on est obligé de retirer la totalité des carcasses parce que l'animal, quand il est abattu, il était manifestement en phase de septicémie, ça veut dire que de ce foyer infectieux localisé au niveau de l'articulation, il y a passage des bactéries dans la circulation générale de l'animal et qu'on risque d'en avoir, de retrouver ces bactéries dans la totalité des masses musculaires. Alors la prise, comment on explique? C'est très très simple. C'est qu'on a affaire à une prise de poids chez les porcs charcutiers qui est totalement déconnectée de la vitesse de croissance du squelette et de son ossification et de la maturation des articulations. On a tout simplement un démarrage avec des lésions traumatiques, un animal qui est trop lourd sur des membres qui est incapable de le soutenir. Et puis secondairement, évidemment, elles deviennent sceptiques. Alors, concernant l'être humain, pour apprécier l'impact sanitaire de ce type d'élevage sur la santé humaine, c'est extrêmement complexe à analyser et en plus, vous comprendrez qu'il y a des intérêts économiques énormes qui sont en jeu, ce qui fait que quand on a des études qui vont dans un sens, eh bien, nous allons trouver automatiquement d'autres études tout aussi scientifiques et qui aboutiront à des résultats inverses. Donc c'est pour ça que c'est vraiment difficile de pouvoir se faire une opinion raisonnée de l'impact sanitaire. Alors évidemment, beaucoup de personnes se sont dit qu'il y a une dégradation de la valeur nutritive des aliments d'origine animale qui sont issus de l'élevage moderne. Certains ont même poussé jusqu'à faire des études comparatives, donc aller faire des prélèvements de produits identiques, certains issus de l'agriculture intensive, d'autres issus de l'agriculture biologique, d'autres issus de l'agriculture raisonnée, et puis on va faire une analyse, rechercher les nutriments, même les nutriments en faible quantité, etc. etc. Mais voilà, comme je venais de vous dire, en général ça débouche sur la polémique plus qu'autre chose. Donc modestement, je vais juste vous donner mon expérience sur le plan anatomopathologique. J'ai observé tant en situation professionnelle qu'en tant que consommatrice, comme tout le monde, quand je vais faire mes courses, et j'aime bien regarder, je passe toujours systématiquement au niveau des stands où on propose des découpes de volailles ou des volailles entières, et puis je regarde. Alors voilà ce que moi j'observe depuis très 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 longtemps. Ce que j'observe, c'est que les découpes de volailles, puisque c'est là où on peut voir évidemment la structure de la viande, alors que lorsqu'on a affaire à des volailles entières, c'est pas possible, eh bien ce que j'observe, c'est que ces découpes de volailles sont le plus souvent porteuses de lésions de dégénérescence musculaire, et qui sont parfois suffisamment anciennes, donc c'est étonnant puisqu'on a affaire à des animaux qui sont abattus très jeunes, eh bien on a des lésions qui ont réussi à être suffisamment anciennes pour que le tissu, les zones de tissu musculaire où il y a ces phénomènes de dégénérescence soient remplacées par du tissu cicatriciel, qui est bien reconnaissable puisque c'est du tissu blanc, c'est du tissu conjonctif très très riche en fibres collagènes. Si vous avez eu une blessure un peu profonde, vous avez peut-être remarqué sur votre peau que là, la trace où il y a eu, je ne sais pas, où vous êtes coupé, eh bien ça devient blanc, c'est ça, hein, c'est du tissu cicatriciel qui vient combler le trou laissé lorsque le tissu initial est mort. Eh bien, donc, je ne peux constater qu'on a affaire à des viandes qui sont porteuses de ces lésions de dégénérescence musculaire. J'ai même trouvé, plus rarement quand même, carrément des lésions de nécrose musculaire, en particulier sur du lapin. Et alors, c'est toujours les grosses masses musculaires qui sont atteintes. Donc, il n'y a pas de danger sanitaire. Si on a ce type de lésion, il n'y a pas de danger sanitaire. Ce n'est pas dangereux de manger cela. Mais par contre, on a une perte substantielle, absolument certaine, des qualités qu'on peut attendre de la viande. On n'a plus de la viande, on n'a plus un produit qui est riche en protéines. On a affaire à un tissu mort et le collagène, nous, on ne digère pas. Hein. Donc, de toute façon, de façon certaine, nous avons une perte substantielle de ces produits. Il y a une dégradation des qualités nutritionnelles, organes et leptiques, et puis on a, si vous cuisez ces viandes, vous voyez, vous avez affaire à des viandes exudatives, c'est-à-dire qu'il y a un rejet d'eau très important dans votre poêle. Il faut rester bien pratique. Voilà, maintenant, en ce qui concerne les micronutriments, etc., eh bien, je ne vais pas vous donner d'avis, puisque on a autant d'études qui nous disent qu'il y a effectivement perte de certaines substances indispensables à la santé, et d'autres qui nous disent, mais non, pas du tout. Donc, voilà. On a aussi certains cancérologues qui établissent un lien entre la consommation de lait de vache, l'apparition ou la récidive de cancers hormonodépendants chez l'être humain. Alors les cancers hormonodépendants, c'est le cancer du sein, le cancer de l'utérus, c'est le cancer de la prostate. Alors là aussi, ça se bagarre pour savoir s'il y a un lien ou il n'y a pas. Donc je ne pourrais pas vous dire. Moi ce que je vais juste vous dire, c'est ce qui se passe dans les élevages industriels. Tous les élevages modernes de mammifères s'accompagnent systématiquement de traitements en vue de la synchronisation des chaleurs chez les femelles. Donc pour ceux qui sont un petit peu dans la biologie, on utilise des prostaglandines, des F2 alpha, on utilise aussi des progestérones, des estrogènes, de la gonadolibérine, le plus souvent en association. Et puis aussi, très souvent, on va utiliser des hormones pour accélérer les mises bas, en particulier l'ocytocine. En élevage laitier, on a un traitement systématique des génisses, c'est-à-dire des jeunes femelles qui n'ont pas encore vélé, après ça peut être des vaches. Donc on a un traitement systématique hormonal des génisses parce que l'on veut absolument, dans le cadre de la rentabilisation, on veut absolument qu'elles vêlent pour leurs 2 ans. Premier veau, et donc première lactation à 2 ans. Donc ensuite, une fois que le vélage est obtenu, eh bien, dans les 3 mois qui suivent, il faut absolument qu'il y ait un retour des chaleurs. Donc de nouveau, il y a un traitement de synchronisation de manière à ce qu'on ait une insémination artificielle qui débouche sur une gestation dans les 3 mois maximum après le vélage. Le but, c'est d'avoir un veau et donc une lactation par an et par vache. Et à ce rythme-là, les vaches à 5 ans, donc 3 veaux, elles sont bonnes pour l'abattoir. Après, elles peuvent encore, évidemment, être conservées, mais les productions ne sont plus suffisantes. Voilà, donc nous avons affaire à des animaux qui sont donc en lactation, puisque la période de tarissement est très courte, avant le nouveau vélage. Donc nous avons quand même des traitements hormonaux réguliers sur ces femelles laitières. Et nous savons que ces substances utilisées s'ajoutent aux hormones endogènes et elles ont la capacité de traverser les épithéliums mammaires. Donc voilà ce que je peux vous dire pour un lien éventuel entre les laits, en particulier évidemment de vaches, puisque ce sont elles qui sont les plus utilisées dans le mode productif industriel, et ce risque qu'il y aurait de retrouver dans le produit laitier des substances d'origine vétérinaire. Enfin, autre exemple, parmi les polluants environnementaux persistants, issus donc des activités humaines, eh bien, on peut les retrouver dans l'alimentation animale, souvent d'ailleurs de façon frauduleuse. Et donc de ce fait, on va les retrouver dans les denrées issues des animaux qui ont été exposés à cette contamination. Et quand cela touche, ça peut toucher n'importe quel type d'élevage, mais quand cela touche un élevage industriel, l'effet est massif. Et là, nous avons des exemples de contamination, en particulier par les dioxines. Les dioxines sont des perturbateurs endocriniens, et ce sont aussi des cancérogènes. Et on a eu plusieurs scandales qui ont impacté les pays de l'Union européenne. Alors pour mémoire, en 1999, c'était en Belgique, à partir de volailles et d'œufs qui étaient contaminés par les dioxines, puis il y avait aussi des PCB, si je me souviens bien. Il y a eu l'affaire des porcs irlandais en 2008-2009, et puis l'Allemagne est régulièrement touchée par ce type de scandale. Il y a eu des œufs qui ont été contaminés, des volailles et des porcs, donc en 2003 et puis plus récemment en 2010. Voilà, donc vous voyez, en fait, compte de façon dichotomique, on parle des conséquences environnementales, on parle des conséquences sanitaires, mais vous voyez bien qu'il y a des ponts multiples entre les deux. Après ce regard technique, il convient maintenant de poser un regard éthique. Alors il n'est pas question pour moi d'idéaliser l'élevage traditionnel, où la maltraitance des bêtes a toujours été parfaitement ordinaire, mais avec l'industrialisation de l'élevage, son ampleur donne le vertige. Car qui sommes-nous? Qui sont les animaux? Quel est le sens de notre vie? Quel est le sens de leur vie? Quels sont nos droits sur la vie et avec quelles limites? Sinon, nous sommes dans un délire de toute puissance, nous nous prenons pour Dieu. Bref, quelle est la responsabilité de l'être humain au sein de la création et face à son créateur? Alors, il y a une condamnation biblique très dure envers ceux qui détruisent la terre, et on trouve cela par petites touches dans la Bible. C'est vrai qu'on n'a pas un grand traité sur la façon dont on doit se comporter par rapport à la création, plus particulièrement par rapport aux animaux, mais au détour d'un texte, une petite touche. Et en particulier, j'ai juste relevé ce verset dans le livre d'Habacuc. Dans le livre d'Habacuc, il est Dieu juge les accapareurs, les malhonnêtes, les violents, ceux qui enivrent leurs prochains et les idolâtres. C'est au chapitre 2, verset 17. Tu seras submergé par la violence même que tu as exercée contre la forêt du Liban, Le massacre des animaux retombera sur toi pour t'écraser, car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des actes de violence contre le pays de Juda, sa ville et tous ses habitants. Il y a une condamnation divine des crimes contre les humains, mais cette condamnation contre les humains est étroitement liée à la condamnation des crimes contre la nature et aussi contre Dieu lui-même. Et puis on a dans le livre de l'Apocalypse un écho de cette condamnation, chapitre 11, verset 18. Les nations s'étaient soulevées dans leur fureur, mais ta colère est arrivée, l'heure est venue où tous les morts seront jugés et où tes serviteurs, les prophètes, tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui te révèrent, petits et grands, seront récompensés. C'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront détruits. Je suis tout à fait convaincue que nous aurons des comptes à rendre à notre Seigneur quant à nos relations avec le reste de la création. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien, et en particulier dans le domaine de notre alimentation? On a plusieurs solutions qui s'offrent aux chrétiens. Se retrancher derrière 1 Corinthiens, chapitre 10, les versets 25 et 27, pour dire, nous avons une absence totale de scrupules par rapport à notre nourriture. Donc on pourrait développer et discuter de cela, mais c'est un texte qui vient se positionner pour expliquer que ce n'est pas des scrupules alimentaires qui doivent faire obstacle à l'annonce de l'Évangile. Voilà. On pourrait être découragé par notre sentiment d'impuissance face à l'énormité du problème et dire « c'est tellement énorme, je sais que je suis pécheur, mais je sais que je vais être sauvé par grâce, et donc je ne vais pas me préoccuper de cela ». C'est vrai qu'on est sauvé par grâce, pas par nos actes, mais néanmoins, on ne peut pas utiliser la grâce comme un oreiller de paresse. Je pense que nous sommes invités à agir. Troisième position, s'engager à titre individuel, par des gestes quotidiens, humblement, mais des gestes animés par cet esprit respectueux de la création, et en particulier au niveau de ses choix alimentaires, pour éviter le gaspillage, refuser la surconsommation de denrées d'origine animale, privilégier des modes de production qui, à sa connaissance, donnent priorité aux humains, aux animaux, à l'environnement. Des petits gestes qui sont vraiment très importants, mais qui ne vont pas permettre de résoudre de façon globale le problème auquel nous avons affaire. Et puis enfin, la dernière piste que je soumets à votre réflexion, c'est de mettre en place un label chrétien éthique, mais pour une éthique globale, une éthique qui se préoccuperait des phénomènes de production jusqu'à la distribution, une éthique qui permettrait de respecter les êtres humains avec un juste salaire, avec des conditions de travail décentes, et en cela, évidemment, on rejoint tout le travail qui a déjà été fait dans le cadre du commerce équitable, mais qui inclurait aussi le respect des animaux dans leur génétique, dans leurs besoins physiologiques et sociaux, dans leur sensibilité, et qui intégrerait aussi le respect de l'environnement, avec en particulier la gestion de la terre, de l'eau, et puis de tous nos rejets. Il y a urgence pour l'ouverture de l'éthique chrétienne au-delà des aspects purement humanitaires, humains. Il y a urgence pour le développement d'une éthique globale qui conjuguera un triple respect, celui de l'être humain, celui des animaux, mais aussi celui de la création. C'est voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin.
Merci à Daniel pour cette présentation informée et engagée, et qui nous laisse en plus 5 minutes pour des questions. Alors, donc, s'il y avait une ou deux questions, alors...
Amis éleveurs de porcs en montagne, j'ai deux amis qui sont producteurs laitiers, et je trouve que pour des gens qui veulent
comprenez bien que j'ai un immense respect pour les éleveurs. Et je ne doute pas qu'on a des éleveurs qui aimeraient travailler autrement, parce qu'ils souffrent. Bon, je vous ai parlé de la souffrance animale, enfin, j'espère que vous l'avez perçue, mais les gens qui travaillent dans ces conditions-là souffrent aussi. Je vous ai dit qu'entre 2000 et 2010, c'est les deux tiers des élevages porcins qui ont disparu. C'est énorme. Les gens sont complètement pris à la gorge quand ils voient que le prix du porc chute et qu'ils n'arrivent même pas à rembourser leurs emprunts, évidemment, et à dégager un salaire ou ils ont un salaire complètement dérisoire par rapport à leurs heures de travail. Donc ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Et qu'on ait des gens qui cherchent à travailler techniquement le plus proprement possible, etc. Je suis entièrement d'accord avec vous. On n'a pas affaire à des gangsters. Moi, je me suis contentée de vous montrer comment fonctionne le principe de l'élevage industriel. Et c'est ce principe-là, ce n'est pas les hommes qui sont piégés dans ce système-là. C'est ce principe-là qui, quelque part, est terrible. Alors, en tant que chrétienne, quand j'avais mes casquettes officielles, je ne pouvais pas parler. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'étais là pour appliquer la réglementation. J'ai travaillé tant dans le domaine de la vétérinaire classique, c'est-à-dire la lutte contre les maladies contagieuses, tout ce qui est hygiène alimentaire, j'ai aussi enseigné l'anatomie pathologique, etc., pour former des gens qui ensuite, tant techniciens que vétérinaires, allaient être chargés de l'inspection sanitaire en abattoir. L'abattoir est un lieu très intéressant parce qu'on est à une croisée des chemins, donc on a un regard à l'abattoir au vu de la pathologie qu'on trouve au niveau des animaux, de ce qui s'est passé en élevage, et puis évidemment on a le regard de ce qui va se passer ensuite dans la denrée alimentaire ou en termes d'hygiène des gens qui vont consommer après. Et puis j'ai travaillé en environnement. Pendant 7 ans, j'étais inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc du coup j'ai été en élevage industriel cette fois-ci, mais avec ma casquette d'inspecteur en environnement, et puis en faisant les études d'impact et les études de danger sur les élevages. Mais je suis bien consciente que les gens sont complètement piégés. C'est pour ça que je me dis que nous, en tant que chrétiens, si on agit isolément, on ne paiera rien. Par contre, si nous, en tant que chrétiens, ensemble, comme on peut se mettre ensemble pour le commerce équitable, si ensemble, on étend notre éthique à la production, en commençant par l'alimentaire, parce que c'est quand même ça ce que nous consommons tous les jours, si on impose par notre acte d'achat, on impose d'avoir des produits produits dans de bonnes conditions, tant sur le plan humain que sur le plan quand même du respect minimum des animaux, moi je trouve que ce serait quand même très bien. Moi, je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Mais encore une fois, je n'ai certainement pas de mépris des agriculteurs. Vous savez comment c'est mis en place, probablement vous savez comment c'est mis en place l'élevage industriel en France. Hein. Ça s'est fait par le biais du crédit agricole. On a poussé les gens à s'endetter. Une fois qu'ils étaient endettés, c'était bon. Ils étaient obligés de produire. Crédit agricole a joué un rôle extraordinaire en France pour la modernisation de l'élevage. Il y a des choses bonnes qui ont été faites. Mais il y a tellement eu, si vous voulez, la machine s'est mise en route, et alors après, elle n'était plus maîtrisée, elle s'est mise à tourner par elle-même. On est maintenant dans une amélioration qui est complètement délirante. Quiconque cherche à améliorer les races qui vont entrer en production, que l'on cherche à rationaliser nos élevages, je ne suis pas contre, mais là, on a basculé. Alors à quel moment on a basculé, où mettre exactement le curseur, c'est vraiment difficile à dire. C'est à nous, justement. De même que dans la Bible, si vous voulez, on n'a pas de modèle pour gérer nos relations interhumaines. On n'a pas de modèle, vous devez organiser la société sur le plan politique et la faire fonctionner comme cela. Eh bien, nous n'avons pas non plus de modèle dans la Bible pour nous expliquer comment on doit organiser nos relations avec le reste de la création. Je pense que c'est notre responsabilité. Alors, à quel moment mettre exactement le curseur, je ne sais pas, on peut discuter. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, on est vraiment dans une mentalité d'exploitation massive, non seulement des ressources naturelles, mais aussi de l'être humain. Moi, je me dis, en tant que chrétien, on ne peut pas fermer les yeux et continuer comme ça, quoi. Enfin, de mon point de vue.